Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. On va lire deux psaumes. Le premier, c'est le psaume 130. Et ensuite, on lira le psaume 113. Psaume 130, on va le lire en entier. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Et le psaume 113, quelques pages avant, le psaume 113, il est écrit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. » Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Alors pour commencer, on va retourner sur ce psaume 130. Au psaume 130, on ne sait pas, d'ailleurs pour les deux psaumes, on ne sait pas qui l'a écrit. Au final, Cantique des degrés, et puis ça commence directement, du fond de l'abîme je t'invoque. C'est vrai que dans ce psaume, on ne sait pas qui l'a écrit. Vous savez, des fois, les psaumes s'écrivent par Moïse, s'écrivent par David, s'écrivent par Asaph, s'écrivent par plein de personnes. Mais celui-là, on ne sait pas qui l'a écrit. Par contre, ce que l'on sait, c'est celui qui l'a écrit, où il était. Je ne sais pas si vous avez vu au verset premier, « Du fond de l'abîme, je t'invoque. » Cet homme, on ne sait pas qui c'est, mais par contre, on sait où il est. « Du fond de l'abîme. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un abîme? Un abîme, bon, j'ai regardé, c'est un endroit profond. C'est un précipice d'une profondeur insondable. Donc en gros, un abîme, c'est un trou sans fin. On va le résumer comme ça. Et vous savez, je ne sais pas, vous voyez l'image, être dans un abîme, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'on est tombé très bas. Mais là, il ne va même pas dire « je suis dans l'abîme », il dit « je suis au fond de l'abîme ». Le fond de l'abîme, on pourrait dire que c'est le plus bas, du plus bas, du plus bas. En langage commun, on peut dire « c'est quand on touche le fond ». Je pense que cet homme, où est-ce qu'il était? Ben, il était tombé le plus bas possible. Il était au fond de l'abîme. Au verset 113, au psaume 113, on voit un autre homme. Et pareil, on ne sait pas qui c'est. Mais cet homme aussi, il a vécu une sorte de chute, une sorte d'abaissement. Il nous est dit qu'il est, au verset 7, dans la poussière ou dans le fumier. Et vous savez, là, ça nous parle aussi de quelqu'un qui a touché le fond. Ça nous parle d'un abaissement. Vous savez, la poussière, la saleté, ça nous parle d'un manque de dignité. C'est quelqu'un qui a perdu sa dignité. Dans ces deux psaumes, on voit quelqu'un qui est dans une situation qui est difficile. Il est tombé. Il est en bas. Et en opposition, dans le psaume 113, il nous est parlé de Dieu. Il nous est dit, psaume 113, verset 4, « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est élevé. » Psaume 113, toujours au verset 4. « Sa gloire est au-dessus des cieux. » Au verset 5, à la fin du verset 5, « Il a sa demeure en haut. » Et on voit que si ces hommes, ils étaient au plus bas du plus bas, on voit que Dieu, il est au plus haut du plus haut. Il est au-dessus. Il est élevé au-dessus des nations, au-dessus des cieux. Il a sa demeure en haut. On sait que Dieu s'appelle le Très-Haut, celui qui est élevé. Et on voit qu'entre ces hommes et Dieu, il y a une distance. Il y a l'homme qui est au plus bas du plus bas, et il y a Dieu qui est au plus haut du plus haut. Alors qu'est-ce qui met cette distance entre l'homme et Dieu ? Dans le psaume 130, au verset 3, cet homme, il va dire, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Il est parlé du péché. Dans Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dans Romains 3, chapitre 23, il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Juste avant, dans le psaume 113, on avait lu qu'il demeure dans la gloire. Sa gloire est au-dessus des cieux. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit que ce qui sépare l'homme de Dieu, ce qui fait tomber l'homme, ce qui le fait descendre profondément, profondément, au plus bas, c'est le péché. À cause du péché, l'homme tombe dans des profondeurs. À cause du péché, l'homme, il est comme une branche qui est coupée d'un arbre et il sèche. Il n'y a plus cette vie, il n'y a plus cette dignité. Et il y a un homme dans la Bible qui dira que lorsqu'il pêche, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne fait pas le bien qu'il aimerait faire et il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est le péché. Le péché nous enlève la dignité. Qui c'est qui pêche ? Eh bien, c'est nous. Et c'est vrai que lorsque l'on pêche, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie ? Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit de la culpabilité. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent être dans des abîmes de culpabilité. Ils sont incapables de lever la tête à cause de la culpabilité. Dans Osée, au chapitre 14, verset 2, c'est le Seigneur qui va dire à Israël, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Et c'est vrai que ça peut être pour quelqu'un qui n'en a pas conscience. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi ça va si mal dans votre vie. La Bible dit que ce qui produit la mort, c'est le péché. Et que lorsqu'on est loin de Dieu, il y a cette mort spirituelle. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaît Dieu et qui est tombé. Vous savez, la Bible dit que le juste, il peut tomber cette fois. On peut tomber. Et au travers de ce psaume, donc, on voit ces deux situations. L'homme qui est au fond du fond, au bas du plus bas, et Dieu qui est au haut du plus haut. Mais on voit aussi, au travers de ces psaumes, l'attitude de ces hommes et l'attitude de Dieu. L'attitude de celui qui est tout en haut et l'attitude de celui qui est tout en bas. Qu'est-ce que Dieu fait ? C'est écrit dans le psaume 113, si on y retourne au verset 2, il nous est dit, il a sa demeure en haut, fin du verset 5, il abaisse les regards. Il abaisse les regards. Et bien que Dieu soit tout en haut, il abaisse les regards. Et ce soir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu s'intéresse à vous et Dieu baisse ses regards sur vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'abîme dans lequel vous avez pu tomber, Dieu abaisse ses regards. Il baisse ses regards. Dans le psaume 8, c'est David qui dira « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu regardes, que tu prennes garde à lui ?» Dieu s'intéresse à nous. Et ce soir, bien que Dieu soit tout en haut, il regarde à vous. Chacun pour notre part. Que fait l'homme ? Dans le psaume 130, au verset 1, il nous est dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque. » Est-ce que vous savez ce que c'est qu'invoquer quelqu'un ? Invoquer quelqu'un, c'est solliciter l'aide de quelqu'un de plus fort. Invoquer Dieu, c'est invoquer par définition, quand j'invoque quelqu'un, c'est j'invoque l'aide de quelqu'un. Et vous savez, je ne sais pas vous, si vous étiez tombé dans un trou, qu'il n'y a pas d'échelle, qu'est-ce que vous auriez besoin ? Vous auriez besoin d'un sauveur. Vous auriez besoin de quelqu'un qui vous apporte de l'aide. Et vous savez, lorsque l'on est pécheur, lorsqu'on est sous la culpabilité, lorsque l'on est au fond de l'abîme, de quoi on a besoin ? On a besoin d'un sauveur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à nous, quelqu'un qui nous cherche et quelqu'un qui descende pour nous sauver. Et vous savez, dans la Bible, il nous est parlé de Jésus qui est le sauveur, de Jésus qui est venu. Si on va ensemble dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il nous est parlé de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire que Jésus, bien qu'il soit Dieu, n'a pas regardé sa position comme quelque chose de plus important. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire qu'il est descendu. Il s'est fait homme. Et c'est vrai que Jésus était pleinement homme dans sa nature, mais il était pleinement Dieu par son identité. Jésus est Dieu, mais il s'est fait homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit que Dieu nous a regardés, mais qu'il ne nous a pas simplement vus. Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il est venu pour nous retirer de notre abîme. Dans le psaume 113, au verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. » Et vous voyez les verbes, il est venu pour retirer, relever et faire asseoir avec les grands celui qui était pauvre et celui qui était indigent. Et c'est vrai que si Dieu est venu, ce n'est pas pour nous enfoncer encore plus. Si Dieu est venu, ce n'est pas pour nous jeter la pierre. Si Dieu est venu, ce n'est pas pour nous accabler. S'il est descendu, c'est pour nous sauver et c'est pour nous relever. C'est ce que Dieu veut faire. Il nous est dit dans Ésaïe 53 que Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est vrai que si il peut faire appel, il peut retirer le pauvre, l'indigent, et le faire asseoir avec les grands. Si au final, celui qui était au plus bas peut venir avec les plus grands, c'est parce que celui qui était le plus grand et qui était le plus haut est venu au plus bas. Et si nous, nous pouvons être élevés, si nous pouvons retrouver notre dignité, si nous pouvons être pardonnés, parce que c'est de ça dont il s'agit, du pardon, c'est parce que lui, il est venu et il est descendu jusqu'à la croix. Dans le psaume 130, vous voyez, cet homme, bien qu'il soit dans l'abîme, il connaissait Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Il va l'invoquer. Et il va dire qu'il y a trois choses que l'on peut trouver auprès de l'Éternel. Trois choses, dans le psaume 130. La première, on la trouve au verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Lorsque l'on vient auprès de Dieu, on peut trouver le pardon. Et vous savez, s'il y a bien quelque chose qui est important, quelque chose qui est essentiel pour votre vie, c'est d'être pardonné. Mais où chercher le pardon, où être délivré de nos péchés, de la culpabilité, c'est en venant à Dieu. Au verset 7, il nous est dit, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de Dieu. » Auprès de Dieu, il y a le pardon, mais auprès de Dieu, il y a aussi la miséricorde. Et au verset 7, la fin du verset 7, « Et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Trois choses que l'on peut trouver lorsqu'on se tourne vers Dieu. La première, c'est le pardon. Et vous savez, Jésus sur la croix, il dira « Pardonne-leur ». Et s'il y a bien une chose que Dieu veut, que Dieu désire, c'est que ce soir, vous soyez pardonnés de vos péchés. Ma question, c'est « Est-ce que vous le voulez ?» La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Ça veut dire qu'il n'y en a aucune que Dieu ne puisse pas pardonner. Quel que soit le péché, quelle que soit la culpabilité que vous pouvez avoir ou la gravité du péché que vous avez fait, vous pouvez être pardonné. Mais il nous est dit si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire que si nous les apportons à Dieu. Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et ce soir, vous pouvez partir de ce lieu blanc. Vous pouvez partir de ce lieu pardonné. Vous pouvez partir de ce lieu purifié. Le pardon. La miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? La miséricorde, je regardais dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui a un sentiment de pitié, de compassion, ou simplement un sentiment d'amour qui pousse quelqu'un à pardonner. C'est une compassion qui pousse à pardonner. C'est la disposition de quelqu'un à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et si on va dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 4, Éphésiens chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, assis avec les grands, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à cause de sa grande miséricorde. Et enfin, on trouve la rédemption. Alors, la rédemption, qu'est-ce que c'est ? La rédemption, c'est quand quelqu'un délivre quelqu'un d'autre en payant un prix. C'est libérer quelqu'un en payant un prix. Et vous savez, la Bible dit, je l'ai lu tout à l'heure, que le salaire du péché, c'est la mort, mais la suite dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit, il est gratuit pour nous. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et celui qui a payé le prix, c'est Dieu lui-même. Et vous savez, le salut, c'est quoi ? C'est pas nous qui payons un prix. C'est Dieu qui paye le prix pour nous. Et la Bible dit que si on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres, ça veut dire que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas en payant un prix, mais que c'est par la foi, afin que personne ne se glorifie. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être glorifié du salut, c'est seulement Dieu. Et toutes les personnes qui un jour, et qui sont même aujourd'hui assis avec les grands, ce n'est pas à cause de leurs efforts, mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu et de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Dans la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et c'est vrai que si nous pouvons aujourd'hui être enrichis, c'est parce que c'est Dieu qui nous le donne. C'est un don gratuit. Alors pour finir, dans Ésaïe 55, on va lire un dernier verset. On a lu tout à l'heure dans le psaume 130 que cet homme a invoqué Dieu. Ésaïe 55. Et on va lire à partir du verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais par contre, il est aussi écrit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que c'est vrai que ce soir, c'est le jour de la grâce. Ce soir, vous entendez l'Évangile. Ce soir, vous pouvez invoquer le Seigneur parce qu'il est prêt. Mais il viendra un jour où les portes de la grâce seront fermées et où ceux qui sont dans l'abîme y resteront définitivement. Pourquoi ? Pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce que les hommes n'auront pas saisi la main que Dieu leur tend. Alors ce soir, on va incliner les fronts. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci, c'est vrai, parce que c'est toi qui es venu, c'est toi qui es descendu. Et Seigneur, ton désir ce soir, c'est de relever l'indigent et le faire asseoir avec les grands. Et Seigneur, c'est ta parole qui le dit, c'est ce que tu désires, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, c'est vrai, pour ta miséricorde. Merci parce que dans, c'est vrai, ton grand amour, tu as choisi de descendre et de venir sur cette croix pour porter nos péchés. Merci, Seigneur, pour l'occasion que tu donnes à tous les hommes de pouvoir se repentir, de pouvoir, c'est vrai, confesser leurs péchés et en être pardonnés. Et je te prie, Seigneur, pour que ce soir, que toutes les personnes, Seigneur, qui pourraient être dans cette situation, Seigneur, que vraiment tu puisses illuminer leurs yeux afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils t'invoquent. Tu dis que lorsque l'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et que le visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde à toi, Seigneur, combien nous sommes heureux de ce Dieu que tu es et de tout ce que tu as fait pour nous. Alors merci Seigneur encore pour ta parole, merci pour ce qu'elle produira dans les cœurs et que ton nom soit béni. Amen.